19h-20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à tous et bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation d'un enfant du siècle avec Catherine Millet. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Frédéric.
J'étais encore dans la solitude profonde de l'enfance. Catherine Millet contemple ses souvenirs comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. Quand elle voit quatre garçons dans un bar, ils ont les bustes penchés dans la lumière, comme un tableau de Rembrandt. Elle a 16 ans. Les garçons créent une revue de poésie, Strophe, fin 1963. On se croirait dans Les Tricheurs de Carnet. Par petites touches, Catherine Millet ressuscite tout un monde disparu, libre, fantasque, malgré les drames. Ses parents se disputent tout le temps. Elle se fait dépuceler dans un camping. Son père la frappe quand elle rentre à la maison. Ensuite, elle part de chez elle et couche avec beaucoup de gens, tous ensemble. Bon, c'était alors la mode. Son petit ami, Daniel Templon, crée une galerie d'art. Elle commence à écrire sur les expos dans des revues. Ses commencements coïncident avec mai 68. C'est le foutoir partout dans Paris. Son frère Philippe meurt dans un accident de voiture. Cette jeune transfuge de classe ne se plaint jamais. Le contraire d'Annie Ernaux. Elle rêvait d'écrire et elle le fait, cela lui suffit. Elle reste toujours extérieure à la vie, c'est peut-être le problème de tous les artistes. La liberté est sa drogue. Parfois cela lui coûte cher, mais elle refuse d'être une victime. Est-ce de la pudeur ou de l'orgueil? Vous répondrez à cette question tout de suite. Pourquoi Catherine Millet est-elle la seule transfuge de classe qui ne se plaigne jamais alors qu'elle a connu de nombreuses humiliations et qu'elle est toujours un des auteurs les plus attaqués en France? La dépression nerveuse n'est pas une excuse, écrit-elle. Après la vie sexuelle de Catherine M. en 2001 sur son libertinage dans les années 70, Jour de souffrance en 2008 sur sa jalousie dans les années 80 et Une enfance de rêve en 2014 sur une enfance entre deux parents malheureux dans les années 50, ce quatrième tome de ses mémoires raconte l'émancipation d'une adolescente dans les années 60 en pleine révolution artistique. Entre nouveaux réalistes, art conceptuel, ready-made et nouvelles figurations. Les quatre tomes de cette autobiographie donnent sa version des mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, publiée en 58. Peut-être le plus splendide autoportrait d'une femme moderne. Voilà, c'est le texte de l'article qui est sorti ce matin dans le Figaro Magazine, Catherine Millet. Alors voilà, vous l'avez sans doute peut-être vu et... On a rarement l'occasion de répondre aux critiques, donc vous pouvez y aller. C'est votre tour.
qu'est-ce que je peux ajouter à ce résumé absolument incroyable? Alors, sur l'orgueil, hein, à un moment donné, il y a la question...
Alors, c'est ça. Aujourd'hui, bon, on est dans une rentrée où il y a 500 livres. Sur 500 livres, il y en a 399 de femmes qui se plaignent, qui sont des victimes de beaucoup de faits horribles, hein, d'inceste, de violence, de pères qui les tapent, qui les frappent. Et vous, votre père, vous frappait, mais oui.
J'en ai pas fait une affaire, quoi.
Oui, pourquoi?
Bah, parce qu'en fait, c'était pas si important que ça. Je crois que j'avais, je vais être très prétentieuse, c'est pas de l'orgueil, là, c'est de la prétention. Je crois que j'avais suffisamment de vie intérieure, si on peut dire comme ça, à propos déjà d'une adolescente. Pour me dire que c'était que voilà je m'en fichais et que il pouvait frapper, ça m'empêcherait pas de ressortir avec qui je voulais la semaine d'après, quoi. En oui. Fait voilà.
Et vous êtes partie assez jeune de chez vous?
Ouais, 18 ans,
voilà, pour vivre complètement libre dans Paris. C'est ce livre Commencement là qui vient donc de paraître aux éditions Flammarion, que personnellement je considère vraiment comme un des livres vraiment centraux de cette année, peut-être même des 10 dernières années. C'est un très beau projet.
Frédéric, merci.
Non, mais ce projet de d'autoportrait d'une femme post-féministe, pourrait-on dire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez conçu ou c'est quelque chose qui vous est tombé dessus?
Non, alors bon, ce qui m'est tombé dessus, c'était quand Denis Roche, éditeur aux éditions du Seuil, m'a dit « Est-ce que tu connais pas une femme qui voudrait raconter sa vie sexuelle ?» Et que j'ai dit « Bah oui, moi je pourrais le faire ». Voilà, ça m'est tombé vraiment dessus.
En 2001,
dessus.
La vie
voilà.
sexuelle de
en
Catherine
2001. Penn. Mais après, les livres se sont enchaînés les uns les autres et finalement, à partir d'idées qui sont indépendantes. Je me suis pas donné comme programme, après le succès de la vie sexuelle, sexuelle. Ah bah tiens, j'ai eu beaucoup de succès avec ce livre. Je vais continuer à raconter ma vie. Bon, et puis je pouvais pas tout le temps revenir sur les scènes sexuelles. J'avais lassé quelques lecteurs à l'époque. Alors là, c'était fini. Non, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire que la vie sexuelle était un livre. C'est joyeux, je crois quand même. Et devant le succès, je m'étais dit, il faut que je sois honnête vis-à-vis des lecteurs et que je leur dise que quand même il y a l'envers de la médaille, quoi, et que c'est pas parce qu'on est très libre sexuellement qu'on connaît pas la jalousie. Donc je m'étais sentie un peu dans l'obligation morale, je dois dire, d'écrire ce livre. Et puis après
donc il y avait le livre Jour de souffrance.
Oui, c'était, donc ça s'appelait Jour de souffrance, voilà.
En 2008.
L'idée de livre sur l'enfance, en fait, c'est bizarre à dire, mais c'est né de l'envie aussi de témoigner un peu, comme ça, à travers ce que moi j'en avais perçu, de ce qu'avait été la vie de mes parents, c'est-à-dire ces couples qui ont été séparés par la guerre. Ils se sont mariés juste avant la guerre et puis ils se sont retrouvés après. Mon père avait été prisonnier pendant presque toute la totalité de la guerre. Et je pense qu'ils n'étaient pas les seuls à... Finalement, la vie avait passé pendant ces 5 ans et les expériences qu'ils avaient vécues étaient très différentes. Et j'avais envie aussi de rendre compte de ce qu'avait été la vie de ces couples-là, éclatés, détruits d'une certaine façon par la guerre.
Le titre « Une enfance de rêve » est complètement ironique.
Ouais, en même temps, pas complètement, parce que j'avais envie, alors peut-être de corriger un peu ça par rapport à l'article que vous avez écrit, c'est qu'en fait, moi, je pense pas avoir eu une enfance si malheureuse entre ces parents qui se déchiraient, d'abord parce que je les aimais, en dépit de tout, et que pensais...
Et qu'eux étaient très aimants.
Et que voilà, ils nous ont aimés, mon frère et moi. Donc oui. on le sentait bien, même si on prenait de temps en temps une baffe. On sentait qu'on était. Mais bon, il y avait ça. Et puis alors pour ce qui est de commencement, qui s'écrit donc au pluriel, là l'idée de départ, c'est un jour je me suis rendu compte que j'avais commencé ma vie professionnelle à un moment où se mettait en place aussi, ou commençait quelque chose qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain. Et donc, c'était un peu comme un défi que je me donnais d'essayer d'entremêler ces deux histoires, une histoire qui relève de l'histoire de l'art, mais aussi de l'histoire sociale, et puis mon histoire, enfin l'histoire, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire d'une très jeune femme dans les années 60, quoi, en fait, et au début des années 70.
Oui, mais ce qui est assez marrant, c'est que cette très jeune femme, elle ressent à la fois un bouillonnement artistique autour d'elle, mais qu'elle découvre presque par hasard, et elle devient critique d'art, et quelle critique d'art, puisque vous l'êtes toujours aujourd'hui, en dirigeant la revue Art Presse, et en même temps, ça se confond aussi avec une libération sexuelle hallucinante, qui est celle des années 60, et qui fait rêver les obsédés dans mon genre.
Il y a eu une coïncidence, oui c'est vrai, il y a eu une coïncidence entre cette disponibilité dans laquelle j'étais, parce que, je disais, j'ai quitté la famille, j'avais 18 ans, j'ai fait des petits jobs pour m'en sortir, j'ai donc pas fait d'études, j'avais pas une route tout tracée devant moi, vous voyez, bon. Et puis, mais simplement, j'avais un projet, je voulais pas vivre comme mes parents, quoi, voilà. C'était le minimum d'ambition que j'avais. Et je me suis associée dans cette entreprise à un garçon avec qui j'ai vécu pendant 10 ans, voilà. Voilà, Daniel Templon, qui aujourd'hui dirige une galerie d'art assez importante. Donc, on avait simplement ce projet et on s'est trouvé en contact très vite avec des artistes qui étaient ou qui avaient notre âge ou à peine plus vieux et qui étaient dans une situation qui était assez analogue quand même, parce que c'était aussi beaucoup des gens, j'y insiste dans le livre, c'était souvent des autodidactes, c'était pas des gens qui étaient passés par les écoles d'art, vous voyez, et qui eux aussi y avaient quand même, on était, pour dire les choses d'un point de vue historique, soyons aussi assez ambitieux, on était dans l'après-après-guerre. C'est-à-dire que l'après-guerre, il y avait encore des artistes qui étaient là, qui étaient en train de digérer ce qui avait été cette souffrance comme ça de la guerre. Et eux, c'était une nouvelle génération qui arrivait, qui nettoyait, quoi. On balayait tout. Et du coup, on bricolait à partir de presque rien, quoi, en fait.
Oui, non, mais c'est ce qu'on ressent dans le livre. Et c'est pour ça que je parle des mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, parce que je trouve que j'ai eu l'impression de lire un classique, mais un classique qui parle aussi d'une autre époque. C'est pas, ouais. pas du tout celle de Beauvoir, évidemment.
Oui, mais oui. alors, bon,
Mais votre style.
J'aime beaucoup Simone de Beauvoir. Oui. Voilà. J'aime bien. Enfin, en tout cas, j'aime les mémoires. Oui,
c'est une influence assez évidente.
Est-ce que c'est une influence, en tout cas? En tout cas, ça m'a autorisée. Voilà. Je me suis dit, quand même, elle en a publié combien? 8 tomes? 10 tomes? Bon. Donc, je peux y aller. Bon, ça m'a autorisée. Et puis, un jour, j'ai lu, d'ailleurs, qu'elle avait le projet, elle est morte assez jeune, d'ailleurs, et qu'elle avait le projet aussi de parler de sa vie sexuelle. Donc, ce jour-là, je me suis dit, waouh, ouf! J'ai eu chaud.
Elle vous a laissé la place. Je cite, « J'étais une fille de 18 ans qui venait de quitter sa famille comme elle aurait tourné au coin de la rue. Je n'avais pas d'argent et à peine conscience que ce fût un problème. Et j'avais pour compagnon un garçon avec qui je n'avais pas connu la même agitation sentimentale et romantique qu'avec les autres. Ni échangé de grandes déclarations, ni aucun de ces mots qui exaspèrent l'esprit dans des surenchères d'interprétation, mais avec qui, au contraire, les choses allaient de soi, sans qu'on ait à s'expliquer, c'est-à-dire sans avoir à briser sa solitude. » Stylistiquement, je trouve, voilà, c'est un classicisme assez surprenant de la part d'une critique spécialisé dans l'art conceptuel et les ready-made et le pop art et tout ça.
Ouais, bah, il faut que je m'accepte comme je suis. Ça fait partie des contradictions que je défends d'ailleurs.
Mais
à
oui,
un moment donné
dans
ce livre. Je pense qu'on a, il faut accepter ces contradictions. On n'est plus justement dans cette époque, voilà, qui est en partie évoquée dans le livre, qui était quand même, il faut dire, souvent dogmatique, quoi. Hein, oui. Beaucoup des artistes, d'ailleurs, ça aussi, ça apparaît dans le livre. Beaucoup des artistes que j'ai fréquentés à l'époque et défendus étaient assez dogmatiques. Hein, c'était une époque où on était on s'appuyait sur des théories, ouais, révolutionnaires, et dans le domaine esthétique, on s'appuyait sur des théories, et si on était pour cette théorie-là, bah forcément on était l'ennemi des autres. Et moi non, moi j'ai toujours navigué des uns aux autres comme ça. Donc en fait, j'étais déjà un peu rebelle, voilà, déjà assez individualiste quand même.
Non, mais c'était pas un reproche du tout. Je trouve que c'est ce qui fait l'originalité de votre travail, c'est de parler de modernité, mais dans un style assez classique, travaillé,
oui, alors,
presque proustien par moment.
Ouais, bon, n'exagérons rien. Mais en fait, j'ai fini par accepter cette façon d'écrire parce qu'elle m'est venue comme ça. Voilà, c'est ma manière d'écrire. J'aime bien des phrases assez longues parce qu'elles permettent de fouiller un petit peu en soi, qu'elles permettent aussi de rendre compte de ces différents niveaux de conscience qu'on peut avoir, hein. On a, je sais pas, 2-3 niveaux de conscience dans la tête en permanence. Donc, la phrase longue passe comme ça d'un de ces niveaux à l'autre. Ça, c'est une chose.
C'est l'analyse fine.
Oui. Et puis parce que aussi, j'essaye d'écrire quelque chose de pérenne, en fait. Et que si j'adoptais de trop un vocabulaire d'aujourd'hui, voyez, pour accrocher le lecteur, voilà, bon, peut-être plus facilement que ce style que
j'adopte. Oui, à la Virginie Despentes, vous voulez dire?
Peut-être, oui, ou d'autres, d'ailleurs. Bon, il y en a beaucoup d'autres, comme ça. Je me dis que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça sera un peu plus difficile à lire, tandis qu'un style classique, voilà, ça traverse
le temps.
Vous savez,
ça nous plaît puisque nous sommes sur Radio Classique, donc ça tombe bien.
Voilà.
Et d'ailleurs, ça va très bien avec votre premier choix musical de l'émission, c'est Jean-Sébastien Bach, hein, donc c'est pas Pierre Boulez, premier mouvement du concerto italien, et évidemment, enfin pas évidemment, mais vous avez choisi Glenn Gould au piano en 1959. Je suis toujours chez La Pérouse, dans le salon chinois, en compagnie de Catherine Millet, dans un endroit qui est quand même un haut lieu du libertinage à Paris, donc ça me semblait particulièrement indiqué pour vous recevoir, Catherine.
Enfin, on n'est pas tout seul dans ce petit cabinet.
Non, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes entourés d'une équipe technique, malheureusement. Je disais que dans le commencement, donc, que vous publiez aux éditions Flammarion, et que j'engage tous nos auditeurs à lire vraiment, qu'ils soient hommes ou femmes, parce que c'est très très important. Vous décrivez une transfuge de classe, mais qui ne ressasse pas un complexe social. Au contraire, qui s'émerveille de s'émanciper et qui s'échappe par la curiosité. En gros, vous êtes l'anti-Édouard Louis.
Oui, sans doute. Enfin, je dis sans doute. Oui, c'est assez vrai, en tout cas, que je ne ressasse pas et que j'exploite pas, comme c'est un peu à la mode, les souffrances qui auraient été les miennes.
Est-ce que vous en avez eu? Vous en avez
oui,
eu
bien sûr.
La mort de votre frère dans
Bien sûr. Ma mère s'est suicidée. Je viens d'un milieu assez modeste, pas particulièrement cultivé.
Bois-Colombes.
Ouais, c'était Bois-Colombes. Bon, c'est de la petite bourgeoisie, hein, Bois-Colombes. Oui. Mais bon, non, j'ai pas. Au contraire, moi, je pense que ça m'a cette vie-là m'a bien préparée à ce qui allait arriver par la suite, quoi. Je crois que j'ai pas eu à me bercer d'illusions, puis que j'ai pas. J'étais très timide parce que assez complexée au début. Enfin, ça, je l'expose aussi dans ce livre, mais pas complexée par mon origine sociale. D'ailleurs, je dois dire que ça. Le milieu de l'art, il est très accueillant. On vous demande où vous êtes né, vous voyez, quand
oui,
vous venez.
Oui, puis même on a l'impression, en lisant le livre, d'une légèreté qui n'existe plus, que c'est finalement pas si grave de pas avoir d'argent, qu'on arrive à se loger pas trop difficilement chez uns ou les autres.
Ouais, on habitait avec Daniel Templon une petite chambre de bonne rue Bonaparte. Je pense que aujourd'hui, une chambre de bonne rue Bonaparte, ça doit coûter beaucoup plus cher que ça ne coûtait à l'époque déjà. Alors ça fait quand même une différence. C'est vrai qu'on a eu cette facilité-là, que la période économique était pas la même, mais c'est vrai aussi que c'était que tout était plus léger. Et alors, en fait, j'ai envie quand même en même temps de corriger un petit peu l'image qu'on a parfois de cette période, parce que elle n'était pas non plus. Alors on dit oui, c'était le plein emploi, c'est la société de consommation, etc. Bon, enfin, il y avait quand même des choses qui se passaient. Des gens à peine plus vieux que moi, ils s'étaient tapé la guerre d'Algérie quand même. Je raconte Daniel Templon, il a échappé à un service militaire qui aurait pu durer 18 mois. Il y avait quand même ici et là, en Europe, des guerres déjà. C'était le moment où démarrait, par exemple, la guerre civile en Irlande. Et tout ça, ça nous touchait quand même d'assez près. Il y avait le Vietnam. Ouais. À l'époque, les gens défilaient dans Paris pour protester contre la guerre au Vietnam. Aujourd'hui, plus personne défile pour protester contre une guerre.
Vous étiez en plein mai 68 aussi. Vous étiez dans les manifs de mai 68.
Il y avait une société qui était extrêmement coercitive, beaucoup plus qu'après ce qu'elle est devenue. Maintenant, je crains qu'elle ne le redevienne, pas à cause du poids de l'État que...
Oui, plutôt d'une sorte d'auto-censure.
D'auto-censure, c'est ça, de certains mouvements d'opinion qui font pression aujourd'hui sur les gens, oui.
Mais peut-être aussi que ce destin de jeune femme qui s'émancipe par l'art, par le sexe, par les rencontres, on a l'impression que vous avez eu de la chance. Est-ce que vous avez eu de la chance? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont décidées par hasard. Vous rencontrez une bande de jeunes et finalement, ce sont des gens qui vont devenir des gens importants dans l'art.
Moi, je crois qu'il ne faut pas nier la chance.
Je ne dis pas que vous n'aviez pas de talent, évidemment, vous aviez du talent.
Merci.
Mais vous êtes retrouvé au bon endroit, au bon moment. Et tout le temps.
Ouais, mais je crois parce que j'avais cette extrême disponibilité. Après tout, j'aurais pu ne pas m'intéresser à ces quatre garçons et pas m'interroger sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. C'est aussi parce que je cherchais ma petite porte de sortie, quoi, en fait. Alors que j'étais très attentive à tout ce qui pouvait me proposer cette petite sortie. Donc il y a un mélange. Bon, c'est sûr que il y a une part de chance. Moi, je crois qu'il faut pas négliger, il faut pas penser non plus que on est tout seul à s'être fabriqué, vous voyez. On a aussi, on est des fois un peu aidé par le destin, il faut
bien
le
sûr,
reconnaître.
Oui, mais ça, c'est vrai que c'est un des sujets du livre. Et alors, c'est votre œuvre, on peut parler d'une œuvre, parce qu'il y a quand même de très, très nombreux livres, et elle est arrivée très tard. Vous êtes devenu écrivain à 51 ans, avec la vie sexuelle.
50, que j'ai commencé à écrire avant de publier.
Oui, d'accord. Alors, pardon, j'ai rajouté une année. Non, mais c'est vrai que c'est assez rare. J'ai enquêté. Les écrivains qui ont commencé tard, alors il y a le Marquis de Sade, à 47 ans.
Oh, bah ça va quand même.
Mais parce qu'il était en prison.
Oui.
Alors, il n'avait pas le choix. Raymond Chandler publie son premier roman, Le Grand Sommeil, à 50 ans.
Bon, oui, bon,
Stendhal,
très bien.
Premier roman, Armance, à 44 ans.
Ouais.
Simon Liberati, bon, qui était notre invité la semaine dernière, à 44 ans aussi. Stéphane Hessel.
Je suis la plus vieille, vous voulez
non,
dire.
Non, Stéphane Hessel, le premier livre à 77 ans.
Ah oh, bon,
Stéphane
d'accord.
Hessel vous bat.
Ça va, ouais.
Mais est-ce que le fait d'avoir commencé si tard, c'est parce que vous vous interdisiez ce rêve? Dans le livre, vous dites que vous écriviez des poèmes et vous aviez envie d'être écrivain. Mais finalement, ça a mis plus de
oui,
temps.
Oui, alors, je pense que j'avais mis ça un petit peu de côté parce que c'est vrai, je voulais écrire. C'était un projet presque d'enfant, en fait. Hein. Et puis le fait d'être critique d'art, de publier très facilement, d'avoir publié des livres d'histoire de l'art contemporaine. J'écrivais quand même, oui. et j'étais assez satisfaite. Ça marchait bien, donc j'avais pas trop non plus à m'inquiéter de ça. Bon. Et j'attendais peut-être. Alors c'est vrai, j'ai parlé de ça aussi. C'est-à-dire que j'étais dans un milieu très avant-gardiste, hein, dans le domaine de l'art évidemment, mais aussi dans le domaine de la littérature. Art Press, la revue que j'avais créée, était très proche de Tel Quel, et que moi, à l'époque, Tel Quel, il y avait une façon d'écrire qui était sans doute beaucoup plus expérimentale que ça ne l'a été par la suite. Et donc, moi, j'avais un peu cette interrogation. Si moi, je veux aussi écrire de la littérature, est-ce qu'il faudra que je trouve une forme vraiment innovante? Bon. Ouais. Et ça, je me sentais pas capable de, et où? Qu'est-ce que
oui,
j'ai
vous n'avez pas envie, mais parce que vous êtes plutôt du côté de Françoise Sagan aussi. Vous la citez à un moment.
Ouais, parce que quand j'étais enfant, c'était mon modèle. Oui, enfin, oui. Adolescente, c'était un modèle, oui, bien oui. sûr.
Et qui elle aussi écrit de manière très très simple et classique, comme Colette également. Vous savez que Colette était une habituée de ce restaurant, la Pérouse. Elle venait
j'adore
souvent comme
Colette,
Proust,
j'adore
comme
Colette.
Victor Hugo, qui était également ici très souvent avec différentes maîtresses. Bref. C'est oui, donc je disais, il y a alors j'ai une autre explication moi à votre style.
D'accord.
Et c'est justement le fait d'avoir commencé tard qui peut-être vous rend plus distante de manière romanesque avec votre propre vie. Il y a toujours une dissociation dans votre travail entre ce que vous racontez et vous-même. On a l'impression que c'est votre style de regarder les choses un peu de manière lointaine. Évidemment, là par exemple, vous racontez des événements qui remontent à une soixantaine d'années. Mm-hmm. Eh oui, 60 ans.
N'insistez pas. S'il vous
non, j'insiste pas, mais c'est vrai que oui, voilà, 1963, oui, ça fait 60 ans. Quoi. Et donc, est-ce que c'est cette distance-là que vous cherchiez et qui fait votre style, ou est-ce que c'est un handicap?
Alors, finalement, j'ai au fil des livres écrits, donc voilà, des livres autobiographiques. Maintenant, en effet, il y en a quelques-uns.
Il y en a quatre.
Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, et d'ailleurs peut-être que le dernier là en témoigne plus clairement, j'avais envie quand même de faire rentrer ma vie, le récit de ma vie. Bon, je suis pas capable d'inventer des histoires, voilà, il faut que je l'admette, mais de faire rentrer ma vie dans ces histoires, en revanche, dans ces romans que je lisais et que j'aimais tellement lorsque j'étais enfant. Mmh. Voilà, il y a quelque chose de ce désir là qui est un peu fou, parce que en effet, j'ai biberonné dans Stendhal, dans Balzac, dans beaucoup des auteurs du
oui, mais par exemple Colette, elle raconte sa vie tout le temps.
Et en fait, on découvre que énormément de ces auteurs du 19e, Lamartine, j'étais une grande lectrice de Lamartine, ils ont passé leur temps à raconter leur vie, mais alors sous une forme qui était plus romanesque qu'on ne le fait aujourd'hui, où bon, il y a eu cet épisode de l'autofiction, tout ça. Alors ça autorise comme ça d'être plus explicite sur sa propre vie. Mais c'est vrai, et en fait, Je crois que ce livre-ci en particulier, on parlait de la chance tout à l'heure. Je crois que j'ai utilisé, j'ai mis en valeur ces moments de chance, voilà, que vous évoquiez, parce que je les trouvais justement romanesques. Après tout, vous savez, j'ai beaucoup hésité sur la manière dont j'allais commencer ce livre. Voilà, les premières pages, comment j'allais démarrer. Puis ça venait pas. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais au lieu de raconter ma propre histoire, je vais raconter celle de ces garçons que j'observais de loin. Et en fait, c'est vrai que c'est une chance. Vous aviez raison de le rappeler tout à l'heure, que j'ai eu ce contact avec ces garçons très 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 jeunes. Et puis que voilà, ça a
finalement décidé de toute votre
vie. Ça a décidé de beaucoup de choses, en tout cas dans ma vie.
Mais c'est des jeunes gens
soi,
dans un bar.
Voilà. Mais oui,
c'est
en
très
soi, romanesque. C'est romanesque parce qu'en fait, ils sont toujours là. J'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux, par exemple. Vous voyez,
ah oui.
Bon, parce que professionnellement, fou. On continue à se côtoyer.
Oui. Voilà. Ah, c'est extraordinaire. Alors, votre deuxième choix musical est tout aussi classique. C'est Antonio Vivaldi. Gloria in excelsis Deo, the English Baroque Soloist, dirigé par Sir John Eliot Gardiner en 1998. Gloire à toi, ô Seigneur, ô très haut. Mais vous êtes croyante ou quoi?
Non, je ne suis pas croyante, mais je suis quand même une bonne petite catholique, non?
On en voit tout de suite la publicité.
EY présente avec Radio Classique et Steelcase la 30e édition du prix de l'entrepreneur de l'année. De la start-up aux ETI, ce programme valorise les femmes et les hommes entrepreneurs engagés qui créent de la valeur dans nos territoires. Retrouvez les lauréats 2022 primés dans chaque région, chaque mardi et vendredi à 7h20 sur Radio Classique.
Italia. Pour leur 8e édition, les musicales de Quiberon, sous la direction artistique de Pascal Gallois, célèbrent les compositeurs italiens. Assistez à 6 concerts exceptionnels avec Dimitri Vassilakis, Julien Soulman, Raphaël Chrétien et le Quatuor Macedonia. Point d'orgue de cette édition, le concert de l'orchestre à cordes des musicales de Quiberon dirigé par Pascal Gallois avec Rossini, Vivaldi, Albinoni, Salviati. Les musicales de Quiberon dans le Morbihan, les 23, 24 et 25 septembre. Réservation sur lesmusicalesdequiberon.fr.
C'est la rentrée avec Radio Classique. Préparez dès maintenant vos prochaines vacances. Du Festival d'hiver de Salzbourg au Festival baroque de Malte, en passant par la Scala de Milan, découvrez aussi l'étonnant Festival d'opéra de Ravenne avec la fameuse trilogie de Mozart da Ponte, Les Noces de Figaro, Così fan tutte et Don Giovanni. Réservez votre séjour musical Radio Classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel, au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com. Radio Classique et la Salle Gaveau présentent l'incroyable histoire de Jean-Sébastien Bach. Un concert-événement avec Franck Ferrand et le pianiste David Frey. Venez revivre en musique la vie d'un des plus grands compositeurs de tous les temps, Jean-Sébastien Bach, à travers la poésie d'une de ses œuvres emblématiques, les Variations Goldberg. L'incroyable histoire de Jean-Sébastien Bach, avec Franck Ferrand et David Frey. Un concert Radio Classique, lundi 24 octobre, Salle Gaveau à Paris. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Quelle chance j'ai d'être chez La Pérouse en compagnie de Catherine Millet, mais c'est un luxe inouï. Nous allons maintenant tout de suite passer au grand jeu que j'ai inventé, notre grand jeu « Devine tes propres phrases ». Je commence par...
J'ai peur.
Oui, ça fait très peur. Vous avez le droit de m'interrompre pour dire « Ah, c'était dans tel livre !» Vous voyez, comme si vous appuyiez sur un buzzer.
Oui.
Il y a deux sortes de géniards. Ceux qui restent accrochés à un malheur qu'ils ressassent, la mort d'une personne qu'ils aimaient ou bien
oui, ça c'est le dernier, c'est commencement.
Ah, c'est dans commencement.
Oui, là j'ai encore la mémoire de ce que j'ai écrit l'année dernière.
Bon, je le finis quand même. Oui, il y a deux sortes de géniards, donc ceux qui restent accrochés à un malheur, et puis il y a ceux qui se plaignent tout le temps de tout et de rien, d'une sortie qu'ils attendaient, qui est annulée, de la soirée où ils se sont ennuyés parce qu'ils ne connaissaient personne, du regret de ne pas avoir pu acheter cet objet qu'ils convoitaient et dont le dernier exemplaire vient d'être vendu, du temps qu'il fait. Ceux à qui on s'adresse en s'exclamant, mais qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas ? Et qui, en dehors des raisons qu'ils donnent et que les autres trouvent dérisoires, traînent une insatisfaction permanente et qu'ils ne sauraient expliquer. J'appartenais à cette seconde catégorie. Catherine Millet ? Donc, vous refusez la victimisation, nous l'avons dit, mais vous êtes une casse-couille au quotidien ?
Oui, pour mes très très proches, je peux l'être, oui. Quand ça va pas très bien, je trouve tous les prétextes possibles pour râler.
Ah, mais c'est pas bien, il faut pas. En tout cas, l'important, c'est que vous ne le fassiez pas dans vos livres. Autre phrase. Si l'on ne croit pas à la prédestination, alors il faut admettre que les circonstances d'une rencontre, que par facilité nous attribuons au hasard...
Jour de souffrance.
Oui, jour de souffrance, en 2008. Les circonstances que nous attribuons par facilité au hasard sont en fait le résultat d'une incalculable suite de décisions prises à chaque carrefour de notre vie et qui nous ont secrètement orientés vers elles. Une fois de plus, on parle de destin. Donc, est-ce que c'est la même chose? Les coïncidences et les choix, c'est la même chose?
Je suis pas assez philosophe pour répondre à une question pareille, mais...
Je pose autrement.
Oui.
Si vous étiez tombé sur une autre bande de potes, et par exemple, ça avait été Jean-Luc Godard et ses copains,
peut-être
vous
que je me serais retrouvée dans le cinéma.
Vous seriez devenu cinéaste comme Agnès Varda. Vous seriez Agnès Varda. Ça s'est joué à un autre bar, à quelques rues près.
Oui.
Catherine Millet aurait été Agnès Varda.
En même temps, il y avait ce désir d'écriture quand même. Mais après tout, on peut bifurquer. Oui, oui, absolument.
Imaginons que au lieu d'aller dans ce bar-là, vous seriez dans un bar... proche de la rue Bernard Palissy, tac, vous seriez devenue une écrivaine de nouveaux romans. voyez, aux éditions de Minuit.
Oh, c'était... Non, parce qu'en fait, c'était déjà...
Ça, c'était un peu avant, pardon.
C'était un peu avant, oui,
insulte,
s'il
là.
Vous plaît.
Excusez-moi.
Oui, mais...
Non, mais par exemple, alors, une amusante anecdote que je n'ai jamais racontée. Lorsque je travaillais chez Flammarion, que vous étiez publié au Seuil, nous nous sommes croisés, je crois, au prix Sade, et vous m'avez confié votre jalousie. Alors, nous avons parlé de la jalousie maladive du narrateur dans La Recherche, et vous avez écrit là-dessus la suite de La vie sexuelle, Jour de souffrance. Donc, ce deuxième tome est en quelque sorte de ma faute.
Oui, absolument. Vous avez une grosse responsabilité, Frédéric. C'est
encore
vrai.
Un hasard.
Oui, c'est vrai, d'une certaine façon. Ça peut naître comme ça, d'une conversation. Je sais aussi que ce livre-ci, Commencement, c'est quelque chose... En fait... On se prend en otage, je crois. On peut avoir une conversation comme celle que vous évoquez là à l'instant, et on est dans l'immédiateté et on répond à la personne qui vous sollicite, qui vous fait une suggestion. On dit bah oui, pourquoi pas. Et puis tout d'un coup, en fait, vous trouvez pris en otage par vous-même. Et moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Et je me suis dit bah oui, ça m'a peut-être confirmé dans cette idée comme ça que j'avais un petit peu quand même à l'arrière de la tête d'écrire sur la jalousie. De même que c'est au cours d'un déjeuner avec une amie qui m'a dit qu'est-ce que Catherine vous pensez faire maintenant. Et puis tout d'un coup, je me suis dit oh bah tiens, pourquoi pas mes débuts dans la vie professionnelle et puis le début de l'art contemporain comme ça. Mais je n'avais pas réfléchi plus avant. Et après, lorsqu'on se trouve on se dit « Ah bon, mais c'est peut-être pas si facile que ça. »
Mais c'est ça qu'en fait, vous êtes plus... Alors, d'ailleurs, c'est cohérent avec la phrase suivante, tiens. « Je suis docile, non par goût de la soumission, car je n'ai jamais cherché à me mettre dans une position masochiste, mais par indifférence, au fond, à l'usage qu'on fait des corps. » Vous avez écrit ça dans quel livre ?
Alors là, j'aurais pu écrire ça dans plusieurs de ses livres. Je donne ma langue au chat.
C'est la vie sexuelle. La vie sexuelle de Catherine M. Mm-hmm. Oui.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que... C'est comme si vous écriviez parce qu'on vous le demande. Denis Roche, le deuxième, c'est peut-être, entre autres, Bibi, mais aussi là le dernier c'est une conversation avec une amie. Oui. Vous écrivez parce que quelqu'un vous le demande. Sinon vous n'oseriez pas.
Sinon je vis tellement dans ma tête que je suis pas sûre que je sortirais de mon rêve. Voyez, bon, je continuerai à me raconter l'histoire que eh ben oui un jour je vais faire un livre, oui je vais écrire là-dessus, etc. Il faut la rencontre avec quelqu'un pour m'extraire de ce rêve, je pense. Je suis un drôle de mélange. Si après tout j'écris des livres autobiographiques, je peux parler de moi comme
oui,
ça.
Oui.
Je suis un drôle de mélange de passivité et d'activité. En fait, je suis quelqu'un qui prend la vie comme elle se présente, plus ou moins, d'assez réceptif, qui suit une suggestion qu'on peut lui faire. Et puis, en même temps, comme vous savez, je dirige ce magazine depuis 50 ans, Art Press, et là, il faut être actif, et puis il faut travailler en équipe, prendre des décisions, etc. Je suis un mélange de ça, on est encore dans les contradictions.
Oui, vous savez, il y avait, vous dites dans Commencement, donc là, le très, 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 très bon livre que vous publiez aux éditions Flammarion, vous dites que vous avez 2 sur 20 au bac français, avec cette appréciation sur la copie, « Laisse courir habilement sa plume pour raconter n'importe quoi ».
C'est encourageant, non?
Oui, mais pour, je trouve que ça, peut-être, c'est, peut-être c'est ça qui fait que vous avez écrit très tard, finalement.
Non, j'ai pas été inhibée.
Trop sévère.
Non, pas du tout.
Raconter n'importe quoi, c'est les principaux écrivains, les écrivains les plus importants font ça.
Voilà. Je crois que le n'importe quoi dans la tête de ce professeur, je suppose, ça voulait dire que je ne racontais pas, je ne suivais pas, je ne répétais pas le cours qu'on m'avait enseigné. Oui. Vous voyez, je donnais mon avis, quoi. Voilà, personnel. Oui. C'est ça, le n'importe quoi. Pour un prof.
Un des principes dans notre émission, c'est comme on a un peu de temps, on revient sur l'ensemble de l'œuvre. Alors, il y a quand même cette déflagration de la vie sexuelle de Catherine Nem en 2001, où vous disiez qu'il était possible de séparer le sexe des sentiments. Hein. Finalement, on s'est aperçu plus tard que dans votre cas, c'était compliqué. Mais quand même, c'était possible à l'époque. Quoi. Mm-hmm. Et pourquoi un tel discours est-il devenu inaudible aujourd'hui? Des femmes veulent interdire la prostitution. Bientôt, ce sera le cinéma X. Puis peut-être les clubs échangistes seront fermés. Tout ça au nom du risque justifié d'abus sexuels. Est-ce que vous pensez que les femmes doivent être protégées du sexe, comme le pensent beaucoup de femmes aujourd'hui?
Non, protégées, pourquoi elles se protègent? Enfin, elles, moi, je
comme
pense...
si le sexe était une menace permanente, vous voyez? C'est un peu ça qui est dans l'air du temps, quand même, dans beaucoup de livres de la rentrée.
Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, j'ai pas l'explication pourquoi en ce moment. Mais moi, je suis. Enfin, l'explication que je me donne quand même, que je propose, c'est que, en effet, il y a quelque chose, il y a un risque dans le sexe. Bon. Le sexe, c'est un abandon de soi. Parfois avec une personne connue, mais justement, on a un peu peur de ce que cet abandon dans le rapport sexuel, dans le plaisir, peut susciter dans l'autre type de relation qu'on peut avoir avec cette personne. Bon. Et puis, si c'est avec quelqu'un qu'on connaît pas, on sait pas où ça peut vous entraîner, etc. Il y a une grande part d'inconnu dans le plaisir. Et ça, je pense que toutes les générations ont peur de ça. Enfin, tous les adolescents, avant de leurs premières expériences ou pendant leurs premières expériences, ont cette crainte. Simplement, moi, j'appartiens à une génération qui a inventé des stratégies. Enfin, elle les a pas inventées. Elle a repris des stratégies pour éviter de tomber dans cette crainte complètement, qui était le flirt, le libertinage, le jeu. Voilà. Moi, je pense que avant l'acte sexuel lui-même, il y a une grande part de jeu. Bon, oui. Enfin, jeu, J-E-U.
Oui, oui.
Bon. Et aujourd'hui, on s'interdit ce jeu. Voilà. Il faudrait, les gens ont peur de se livrer comme ça directement. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais non, vous n'êtes pas obligé de vous livrer directement. Vous pouvez jouer avec. Alors, jouer, ça veut dire.
Oui,
que...
c'est ce que les féministes dénoncent comme la zone grise, ou le male gaze, ou je sais pas, c'était ce moment
voilà.
De séduction où on ne sait pas très bien ce qui va se passer.
Bah oui, mais on peut, voilà, si le type en face vous plaît pas trop, bah vous pouvez lui dire non, hein, oui. Vous n'êtes pas obligé de le suivre.
Je crois
bien
que c'est plus prudent. Je lis encore une phrase. J'étais à deux doigts de m'avouer la vérité. J'en avais assez d'être un pur esprit. Non que le désir me tourmentât, comme à la veille de la puberté, mais je devinais que la violence de la chair, sa crudité, m'aurait sauvé de cette fadeur éthérée où je m'étiolais.
C'est moi qui ai écrit ça ?
Non, c'est un piège, c'est Simone de Beauvoir dans les mémoires des jeunes filles rangées.
Ah bon, quand même.
Mais ça vous allait bien ? Alors, ça vous allait bien, franchement.
J'allais dire, je suis vraiment étrangère à moi-même, alors.
Vous avez choisi en troisième choix alors un morceau de jazz. Oui. C'est Cecil Taylor, un pianiste américain free jazz, qui est mort en 2018. Extrait de l'album The World of Cecil Taylor, 1960. Nous sommes toujours chez La Pérouse avec Catherine Millet. On vient d'écouter Cecil Taylor. Alors là, c'est le délire total. Hein. On sent vraiment cette liberté des années 60. Dans ce...
Ah oui. On allait l'écouter avec Daniel Templon quand il donnait des concerts.
Là, on s'est dit, oui,
il y avait de l'énergie. Hein.
Il y avait cette musique-là, évidemment. On ne pouvait pas vivre de manière calme. Je me disais, est-ce que au fond, on parlait de ça tout à l'heure, votre écriture, où vous regardez, où vous analysez votre propre existence comme une œuvre d'art, c'est de l'art contemporain peut-être aussi. C'est-à-dire, c'est du sophical, mettons, une installation, c'est presque comme si vous étiez toute nue dans une boîte en verre, dans un musée. Vous voyez, enfin, j'exagère, mais. Vous voyez, le côté performance art.
Oui, je raconte ça quand même. Moi toute nue dans une galerie d'art, non, ça s'est pas produit. Mais ma photo de moi toute nue, oui, je le raconte dans une exposition de Michel Journiac. Et ça, je le raconte parce que en fait, je crois qu'en effet, ça m'a, en tout cas, ça a aidé à me forger le caractère, quoi, parce que c'était intervenu très tôt dans ma carrière de critique d'art. J'étais très proche de cet artiste, Michel Journiac, et donc il a fait ses photos. C'était, j'étais nue et photographiée, voyez, vraiment sans artifice, quoi. C'était une photo en pied, grandeur nature, en noir et blanc. J'étais pas particulièrement à mon avantage. Et j'entendais, les gens savaient pas que c'était moi qui avais posé, parce qu'il y avait pas ma tête. Et les gens savaient pas. Et j'entendais des réflexions pas toujours très agréables sur mon physique. Et alors là, bon, ça vous blinde. C'est-à-dire que ça vous met vraiment l'écran entre vous-même, ce que vous pouvez ressentir, etc. Et puis, l'image qui est livrée de vous aux autres.
Il y a d'autres photos. Il y a des photos de Jacques Henry qui sont
alors
très
après,
belles.
Il y a eu les photos de Jacques Henry que c'est venu un petit peu corriger.
Ah oui.
Bon, voilà, c'était des photos d'un homme amoureux, là. Donc, elles sont plus valorisantes.
Mais c'est je voulais vous interroger un peu sur l'impudeur, parce que c'est à la fois ce que vous écrivez est pudique et en même temps, c'est aussi une manière, une sorte d'exhibition, comme tous les autobiographes. Hein, moi-même, j'en fais partie. Hein,
ouais, il faut pas nier le narcissisme qu'on met là-dedans.
Oui, ou simplement, disons, la mise en scène de soi, c'est quelque chose qui est intéressant pour tous les artistes. Ouais. Et finalement, c'est là où peut-être votre classicisme ne l'est pas tant que ça. Puisque vous faites ce que font beaucoup d'artistes contemporains, c'est ça
oui,
que je voulais dire.
Oui, ça c'est vrai. Et puis d'auteurs. Moi, je pense que quand même, On est passé par les mœurs aujourd'hui sont puceux même du début, enfin du milieu même disons du XXe siècle. Hein, même là, les lois ont évolué sur la sexualité, sur le genre, sur la procréation et tout ça. Bon, ça fait quand même une très grosse différence. On a traversé quand même la psychanalyse, donc ça autorise beaucoup de choses. Ça autorise sûrement beaucoup plus facilement le discours sur soi, l'utilisation du je, que ça ne l'était du temps de Stendhal ou de Flaubert.
Il y a une autre phrase de vous. Moi-même, qu'est-ce que je fais d'autre depuis des années, sinon faire de moi-même un personnage de livre ? Bon, il y a deux fois moi-même. Mais vous aviez envie de devenir un personnage de roman ?
Peut-être. Ah, il me fouille un peu. Bon. Non, peut-être.
Je ne fais que mon métier, moi. Je suis animateur sur Radio Classique.
On évoquait ça, la manière dont cette littérature du 19e m'a imprégnée quand j'étais enfant. Et forcément, quand on lit surtout ce genre de littérature, on s'identifie aux personnages. Et moi, d'ailleurs, je m'identifie aussi bien, plus facilement presque, aux héros qu'aux héroïnes. Et du coup, cette identification, j'ai dû en garder quelque chose comme ça. Et le fait de d'écrire aujourd'hui ma vie, de la faire rentrer dans une forme qui est presque celle d'un roman, c'est une façon de répondre à ce désir lointain que j'avais quand j'étais enfant et que je rentrais dans ces romans à travers des personnages.
Plus personnage qu'auteur de romans. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas de capacité pour imaginer une fiction. Mais est-ce que vous pensez que le roman est mort ?
Ah !
Parce que, au fond,
je pense qu'il faut, distinguer. Alors, il faut distinguer peut-être ce qui est le contenu du roman et la forme du roman. Et moi, je pense que la forme du roman n'est pas morte. Voilà. Le contenu, c'est autre chose. Si vous allez chercher des histoires, alors bon, bien sûr, moi je pense que j'admire beaucoup des gens qui sont encore capables d'inventer des histoires un peu extraordinaires, peut-être des romans policiers, des choses d'anticipation, etc. Bon, ça j'admire beaucoup. Mais pour ce qui est de parler de la vie des gens, de la société et tout. J'y crois un peu moins à la fabrication d'histoires. Quand j'entends parler de romans ou que je mets le nez dans ce genre de romans, je me dis, mais pourquoi la personne ne dit pas directement « je » quoi. Voilà. Donc,
Le livre Commencement se termine par une évocation de votre frère Philippe qui est mort dans un accident de voiture il y a fort longtemps. Et vous dites... C'est la dernière phrase, je crois. Puisque Philippe était mort, il restait à moi seul de faire vivre le nom de Millet, dont je n'ai gardé dans le titre d'un livre que l'initiale. Vous faites allusion à la vie sexuelle de Catherine M. Pourquoi la vie sexuelle de Catherine M. s'est pas appelée la vie sexuelle de Catherine Millet ?
Je sais pas.
C'était pour faire genre Marguerite Duras avec les initiales.
Non, c'est parce que ça m'est venu comme ça et que ça m'avait fait rire. Catherine M. Voilà, il y a un peu comme ça l'ambiguïté du M. Quoi, elle aime. Ça peut être aussi le verbe aimer. Mais ça, je l'ai pensé après, spontanément. Ça m'était venu comme ça parce que aussi il y avait quelque chose. Oui, c'était un peu comme une blague. C'est-à-dire qu'il était évident. Que la vie sexuelle de Catherine M était signée par quelqu'un qui s'appelait Catherine Millet. Bon, donc il n'y avait pas beaucoup d'ambiguïté. Oui, c'était voilà. Et c'était une sorte de jeu.
Est-ce que vous dites là sur votre frère, vous aviez envie de faire vivre le nom de Millet ? Est-ce que
ça a été une façon pour moi sur le moment de surmonter cette douleur. Oui. J'ai beaucoup souffert de cette mort et adopter ce ce que je dis, d'ailleurs, c'est presque un cliché de dire, l'héritier mâle est mort. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'héritage, d'ailleurs. Mais enfin, bon, l'héritier mâle, le porteur du nom est mort. Et c'est moi qui dois maintenant le faire
pour
vivre.
Lui, je vais
et
le faire
c'est, ça a été un petit coup de fouet, comme je me suis donné sur le moment pour surmonter cette douleur,
Alors, une surprise pour finir l'émission.
Mais il y en a déjà eu tellement.
Oui, il y en a eu déjà, un peu trop, oui. Mais quand même, je voudrais vous faire entendre quelque chose pour se remettre dans une période bénie. L'équipe technique est en train de danser pieds nus. Des pétales de roses tombent du ciel. Nous faisons brûler de l'encens. Vous êtes quand même toujours sur Radio Classique. Je ne sais pas, il y a eu un moment de folie. Là, tout d'un coup, on s'est cru dans les années 60. C'est vrai que pour quelqu'un qui... Moi, j'ai 10 ans de moins. Hein, là, 68, j'avais 5 ans. Mais je suis jaloux de vous. Je suis jaloux parce que vous avez connu cette période complètement dingue. J'imagine que vous avez dû voir la comédie musicale Hair.
Ouais, oui, Hair, c'était quelque chose, oui.
Et vous comprenez qu'on puisse être nostalgique et jaloux de cette période que vous racontez dans Commencement, qui est complètement hallucinante. Quoi. Une liberté folle... Plus de structure du tout, on se fiche de tout et on essaye des choses nouvelles.
Ouais, mais enfin bon, des fois quand même, on tombait sur un os. Hein. Faut pas croire que la vie était si facile que ça. Ça aussi, ça apparaît quand même. Il fallait trouver un petit peu d'argent pour subsister, tout ça. Bon, mais c'est vrai que voilà, on n'avait pas, on se sentait. C'est difficile à dire, mais. Je voudrais dire un autre mot que liberté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation, on ne se sentait pas obligé de gagner de l'argent, on ne vivait pas si bien, mais il n'y avait pas l'obligation de gagner de l'argent, il n'y avait pas l'obligation de faire une carrière, il y avait plein de choses qui ne rentraient pas en ligne de compte, on voulait simplement vivre comme on avait envie de vivre, voilà, sans se préoccuper du lendemain. Mais moi,
Mais aujourd'hui, on parle de la sobriété heureuse, qu'il faut peut-être quitter les villes pour vivre à la campagne. Tout ça, c'est presque l'utopie des années 60 qui revient.
Oui, il y a des gens. Bah oui, parce qu'il y a des artistes qui sont partis s'installer à la campagne. Après, ils sont revenus quand même.
Pas moi. Pas encore.
Oui. Bon. Mais oui, moi, je pense que la chose est toujours possible. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. En fait, certes, il y a d'autres problèmes très graves dans nos sociétés, tout ça, mais il y en avait aussi à l'époque. Et je pense qu'il faut qu'une génération arrive et puis, balaye.
Foutre tout par terre, bien sûr.
Voilà.
Recommencer la révolution, enfin, il est temps. Merci infiniment.
Surtout que c'était une révolution hédoniste.
Oui. Merci beaucoup, Catherine Millet, d'avoir perdu
beaucoup,
votre
Frédéric.
Temps en ma compagnie chez La Pérouse pour Conversation d'un enfant du siècle. Comme chaque semaine, l'émission n'aurait pas pu exister sans Philippe Gault pour la production, Mathieu Roclago pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, le journal du classique avec Laure Maison. Et puis, à la semaine prochaine, bien sûr, vendredi 19h. Merci infiniment à tous.